Chicago. Chicago, ça pourrait être une ville, bien sûr, mais pour moi, Chicago, aujourd'hui, c'est la petite graine, la petite chose qui commence. Et puis, vous savez que les graines, quand on les broie, on peut même en faire des condiments tout à fait remarquables. Chicago, c'est la naissance. Quand on naît, on peut être Rosa. Rosa, c'est beau, Rosa. C'est comme la fleur. Rosa, c'est un prénom qui chante à la façon mexicaine, parce que Chicago, on va l'oublier très vite. Quand on a déjà 30 ans de carrière au Mexique, c'est qu'on est complètement déraciné et bien replanté. Et en l'occurrence, lorsqu'on s'appelle Martin, comme nom de famille, ça devient curieux. Là, il y a un doux mélange, ça a quelque chose de francophone, et pourtant c'est un peu suisse. Il y a des mélanges comme ça qui font qu'une femme a une trajectoire exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, c'est surtout dans l'accompagnement, dans la façon de concevoir sa vie avec, nous le rencontrerons, et je dois le nommer dès le départ, quelqu'un qui est votre cuisinier préféré, Pedro Ortega. J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de votre trajectoire à la tête d'un des restaurants peut-être les plus connus de la ville la plus grande du monde, Mexico, l'Estoril. L'Estoril pour vous, Rosa Martin?
C'est ma vie, c'est comme un enfant pour moi, l'Estoril. On a commencé il y a plus de 27 ans et c'était par hasard, par amour. Mon mari aimait beaucoup à ce moment-là la cuisine, il faisait très bien la cuisine et c'est comme ça qu'on a commencé avec un restaurant. Et depuis le début, on a eu Pedro Ortega, qui est mon chef. Et j'ai eu la grande chance qu'il y a une grande amour, un grand respect et une admiration de chaque côté. Pas seulement de lui vers moi, mais aussi de moi vers lui. Et c'est pour ça que je crois qu'on a pu travailler tellement bien ensemble.
Rosa Martin, Rosa mexicaine, Martin un peu plus...
Suisse.
Un peu plus suisse.
Oui, parce que mon mari était de Genève.
En l'occurrence, comment est-ce qu'on vit au Mexique, comme vous le faites dans une grande capitale, avec justement ce Pedro Ortega, qui est un peu votre alter ego cuisinier, qui lui, lorsqu'il sort pour vous saluer dans la salle, a naturellement quelque chose de blanc sur la tête, comme tous les grands cuisiniers, mais il a un aspect bien mexicain, pour ne pas dire... indien dans le plus beau sens du
oui,
terme.
Oui, parce qu'il a des origines indiennes. Il a des origines indiennes. Il est de l'état de Oaxaca, qui est un des états les plus riches folkloriquement et naturellement, plus riches du Mexique. Et lui, il vient de montagne de Oaxaca.
Il est zapothèque ou mixtèque?
Zapothèque. Zapothèque.
Il parle zapothèque?
Il parle zapothèque. Logiquement, il n'a pas très... il ne peut pas le parler très souvent parce que seulement quand il rentre chez lui.
Quand il retourne dans ses montagnes, oui, oui. À 600 km au sud de Mexico.
Oui, exact.
Est-ce que le fait de naître, on reviendra à Chicago pour vous tout à l'heure, mais le fait de naître dans ces montagnes de l'état de Oaxaca, entre 1600 et 2000 mètres d'altitude, avec une sorte de printemps toute l'année, avec une ambiance très indigène, puisque c'est l'état le plus indien de tout le Mexique, est-ce que ça se sent, est-ce que ça se voit, est-ce que ça se ressent lorsqu'on est cuisinier?
Je crois que oui, parce que il a la joie de faire quelque chose. Et ça, les gens de cette région-là, ils ont tous la joie de vivre.
Si je vous demandais le plat préféré, la senteur préférée qu'il a importé dans ses veines de Oaxaca?
Oh, je crois que c'est surtout le mole negro de Oaxaca, parce que c'est...
Mole negro?
Mole negro. Mole negro, ça vient du mot moudre.
Mollet, moudre.
Moudre, mollet. C'est moudre. C'est de moudre de plusieurs ingrédients.
Vous allez peut-être nous donner un semblant de recette, parce que ce serait très difficile de le faire ici à Genève. Mais dites-nous comment se fabrique ce mollet.
C'est difficile de le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas tous les ingrédients, parce qu'on a besoin d'au moins 8 différents piments différents qu'on appelle chiles. En Mexico, les piments, on l'appelle chile. Et tous, ils ont un nom différent.
Dites-nous les noms différents.
Par exemple, chile ancho, chile guajillo, chile pasilla, chile verde. On a tous des noms différents.
Rosa,
oui.
Si nous rentrons dans le marché de Oaxaca, et qu'on arrive dans cette partie des senteurs et qu'on voit ces espèces de pyramides curieuses, chaque fois que vous avez mentionné un chili, un piment...
Ah, je peux voir le marché de Oaxaca.
Vous avez des...
Parce que c'est un des plus beaux marchés du Mexique, à part ça, coloré, plein de odeurs, plein de arômes, plein de aussi de vues, parce que c'est la vue est comme un tableau.
On passe entre les étals, on voit ces espèces de pyramides colorées, et vous mentionniez les piments. C'est vrai que pour nous, c'est assez troublant, parce que quand on dit piment, on pense en général vert, éventuellement rouge, peut-être un peu jaune, mais on n'imagine pas qu'ils sont parfois séchés, bruns, qu'ils ont des odeurs de fumée, qu'ils ont des odeurs de goudron, des odeurs très particulières pour faire
une
sauce.
Oui, parce que ça change, par exemple, dans cet plat, le mole negro de Oaxaca. Parce qu'il y a dans tous les états du Mexique, on a tous un mole.
Une recette propre de mole.
Pour le mole, oui. Et le mole negro de Oaxaca, il a un piment spécial qui est noir. C'est pour ça que ça s'appelle negro, noir. Ça veut dire noir.
Alors, l'allure d'un mole, lorsqu'on est sur le marché de Oaxaca toujours, il y a des stands où on vend du fromage, d'autres où on vend des spécialités de Oaxaca. Ouais. Mais c'est souvent une sorte de pommade épaisse, quelque chose d'assez curieux qu'on peut mettre en boîte, qu'on peut emmener à la maison, qu'on peut même ramener ici en Europe.
Oui, logiquement, parce que c'est comme ça qu'on a amené le mole qu'on sert.
Alors, vous avez broyé tout cela. Et qu'est-ce que vous mettez d'autre à part les piments?
Oh, logiquement, de l'oignon, de foin, un peu d'ail, et des autres comme le sésame.
Est-ce qu'il y a du chocolat?
Du chocolat, oui. Mais dans le mole de Oaxaca, pas trop. Pas doux.
Quand vous dites chocolat, j'ai envie
C'est le cacao.
C'est le cacao pur, oui. C'est le côté amer.
Oui, amer.
Ça n'est pas la douceur du chocolat suisse.
Non, c'est pas la douceur du chocolat suisse qui est très bon, mais c'est pas ça.
Donc c'est vraiment un condiment supplémentaire, le cacao amer.
Et un condiment très mexicain, parce que le cacao vient du Mexique.
Chocolat en aztèque.
Oui.
En l'occurrence, par rapport à cette visite du marché de Oaxaca, si je vous disais sentir, est-ce qu'il y a autre chose dans la cuisine mexicaine qui ressort de l'ordinaire?
Dans le sentir.
Dans le parfum ou dans les saveurs même?
Moi, je crois que de l'ordinaire, c'est qu'on voit ce pain à Mexico et surtout à Oaxaca, qu'on voit aussi des piles de sauterelles, par exemple.
De sauterelles?
De sauterelles, qu'on mange ça.
On mange encore des sauterelles?
Ah oui, elles sont délicieuses. Elles sont délicieuses. On les mange, on les frit. On met un peu du sel et du citron
tout
et c'est délicieux.
Tout petit peu de genre paprika piment dessus aussi, non?
Non,
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 du
non,
sel.
Non, parce que dans ce moment-là, quand on mange le sauterelle, si on le mange en tacos, c'est toujours une tortilla, que c'est notre pain mexicain, quand on l'appelle tacos, c'est parce que c'est roulé. C'est roulé toujours.
Donc en fait, il s'agit d'une tortilla qu'on a préparée en claquant bien des doigts et des mains pour faire cette espèce de petite galette de maïs.
Exactement.
Et de maïs blanc ou de maïs jaune.
À Oaxaca, je dirais même
de maïs noir.
Bleu. Bleu, surtout bleu.
C'est vrai qu'il y a 5 couleurs pour le maïs.
Oui, oui. Et avec ça, on fait le tacos de sauterelle. Et à ce moment-là, on met toujours une petite sauce qui... En général, ça peut être du tomate ou du tomatillo, que c'est un petit tomate verte.
Une tomatillo, c'est cette tomate verte avec une enveloppe fine et transparente.
Exactement, c'est ça, qu'on utilise beaucoup dans la cuisine mexicaine. Et on met du piment verte, mais frais, pas sec.
Qui pique fort?
Très fort.
Je commence à avoir l'eau à la bouche.
Alors, ça dépend si on met beaucoup... Il y a des gens qui peuvent le supporter, mais il y a des autres qui ne peuvent pas. Alors, seulement un petit pourcent.
Rosa, ce qui a taquiné l'auditeur, c'est sûrement la sauterelle.
Pourquoi?
Je ne sais pas, une petite sauterelle rouge
comme
ça.
Ah, mais elles sont délicieuses.
On mange des escargots. Est-ce qu'il vous arrive de faire des mélanges, puisque vous parlez d'escargots? Est-ce que lorsqu'on a, on peut le citer, l'Estoril est un restaurant qui correspondrait un peu à nos Girardets d'antan ici, en toute modestie, mais il est vrai que vous avez pris l'habitude, grâce à un chef zapothèque que nous évoquions tout à l'heure, d'être audacieux.
Oui, on est très audacieux. On mélange la cuisine française avec la cuisine mexicaine.
Nous y sommes. Donc là, ça ressemble plus au portrait de Rosa Martin.
Oui, le mélange, oui.
En l'occurrence, des escargots sur une table à Mexico, est-ce que ça se mange?
Ah oui, ça se mange. Par exemple, ça, c'est un de plats favoris dans mon restaurant. Mais ce n'est pas avec une recette mexicaine. C'est fait à la française.
À la bourguignonne.
Je ne l'appelle pas la bourguignonne parce que on ajoute deux ou trois petites choses que sont nos secrets. Et c'est un peu différent, mais c'est la base du beurre, du persil et de l'ail.
Lorsqu'on ouvre un restaurant à Mexico, il y a X années, il y a déjà une trajectoire. Votre vie, vous avez dit, c'est mon bébé. C'est quelque chose d'assez touchant. On a l'impression qu'il y a un côté totalement affectif avec la cuisine mexicaine que vous avez décidé à travers un cuisinier, à travers vos idées, de lancer. Dans une ville comme Mexico, il faut quand même convaincre les gens. Comme nous, pour nous faire manger vos fameuses sauterelles, il faudrait faire un effort.
Oui, mais on convainc les gens. Je crois que les gens, quand on fait quelque chose avec amour, et c'est ça que on a fait avec le restaurant, on a commencé avec amour. Je crois que ça ira, ça convainc tout le monde en général. Et la bonne cuisine, logiquement, et le bon service.
Un menu.
Le menu?
Un menu.
Un menu, par exemple.
L'idéal.
Ça pourrait être, par exemple, les escargots pourraient être un peu européens. Et après ça, on pourrait manger très très bien en chile en nogada pendant le mois de août et septembre.
Racontez-nous le chile en nogada qui a une grande histoire.
Chile en nogada, c'est une histoire très jolie et vraie, que c'était inventé par des nonnes à la ville de Puebla.
Puebla, c'est à quoi, 200 km de Mexico, de l'autre côté des
Même pas
volcans?
de son nom, c'est 80 km de Mexico, 90 km de Mexico. Mais les nonnes, elles attendaient la visite du premier
Empereur, oui.
empereur mexicain qu'il y a eu, et l'unique, je crois, qui a duré pas beaucoup. Et elles ont fait cette
Ce plat.
plat avec les couleurs du drapeau mexicain, que c'est rouge, verte et blanc. Alors, le piment verte, que c'est un chile de Puebla, parce que ça vient de là, c'est le vert du drapeau. La sauce est faite avec de la noix. Et ça doit être très, très fraîche. Et c'est le lait de la noix avec quoi on fait la sauce.
Quand on voit un chile en nogada servi à Puebla, on pourrait l'imaginer dans le couvent de Santa Clara, c'est comme ça que ça
Oui, on peut
s'appelle?
l'imaginer, on peut surtout l'imaginer avec très patriotique,
Donc
très
le
patriotique.
vert pour le piment, une espèce de nappage qui ressemble à une crème extraordinaire faite à base de noix fraîches, comme des noix de Grenoble en fait.
Exactement, exactement la même chose, et c'est surtout, c'est pour ça que c'est août et septembre au Mexique qu'on serve
C'est
ça.
saisonnier donc.
Et en septembre, comme c'est aussi la fête nationale du pays, le 15 septembre, alors c'est très très commun qu'on a ce plat
Vous
pour
savez
ce.
qu'on attend tous le rouge?
Et le rouge, c'est la grenade.
Des
Grenade,
grains de
des
grenade?
grains de grenade, oui.
Alors vous jetez ces grains de grenade
Oui, et ça
sur
se
la
voit
crème?
comme le drapeau mexicain.
Donc vous avez ça, une assiette nappée avec votre piment à l'intérieur. Et que mettons à l'intérieur même du piment?
Dans l'intérieur du piment, on fait une mélange de viande de porc
Une
et
farce en fait.
une farce. Mais on met un produit qui s'appelle acitrone.
À citron.
Acitrone, qui est un produit un peu aigre, doux.
Qu'est-ce que
Je
c'est?
pourrais
C'est
pas
une
vous.
herbe?
Non, non, c'est pas une herbe, c'est quelque chose qu'on fait comme en fruit confit, si vous voulez. Comme un fruit confit, qui est très bon. On met des raisins et des noix aussi.
Ça se mange chaud ou froid?
Ça peut se manger de deux manières, chaud ou froid.
Je peux vous le demander tiède?
C'est bon aussi.
En l'occurrence, on s'est mis à table. C'est tiède. On a eu des escargots pour l'entrée. Et je vous sers maintenant des chiles en nogada. Puebla est très belle avec des faïences bleues sur toutes les églises. Regardez, il y a une ambiance. Sentez un parfum. Goûtez.
Chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 y llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona.
Ah, la Llorona, c'est vrai qu'il y a des chanteuses comme ça, Chavela Vargas, c'est une ambiance, c'est une voix, j'ai envie de dire, entendre et pourtant c'est voir et connaître. Quand on entend Rosa Martin, on l'imagine dans son cadre, comme on voit la personne, je me tais, je regarde, classe, et...
Ces voix de femme, Rosa, est-ce qu'elle vous touche, la voix de Chavela Vargas?
Ah, beaucoup, beaucoup, surtout que j'ai l'honneur de connaître Chavela Vargas. Pas seulement de l'avoir vue et entendre, mais je la connais comme personne. Et elle est quelque chose d'extraordinaire.
C'est une femme extraordinaire.
Oh, extraordinaire, extraordinaire. Et elle est une femme un peu masculine, comme...
Un peu?
Bon, un peu beaucoup.
Un peu beaucoup.
Un peu beaucoup. Masculine, mais elle est extraordinaire comme personnalité.
C'est le propre peut-être de ce pays, le Mexique, d'avoir en son sein des femmes, beaucoup de femmes extraordinaires. On pense peut-être ici à Frida Kahlo, dont on vient de parler il n'y a pas longtemps, Tina Bodotti, dont on a aussi parlé. Mais ici, c'est vous que nous recevons, Rosa. Et vous, vous êtes aussi une femme extraordinaire.
Merci, merci.
Y a-t-il beaucoup de femmes comme vous qui ont des grands restaurants
oui,
à Mexico?
Oui, il y a beaucoup de femmes, pas beaucoup, mais il y a une grande quantité de femmes maintenant à Mexico qui se sont mises dans la restauration et surtout des grands chefs femmes.
Des grands chefs femmes.
Femmes. Oui, presque tous les bouquins écrits de la cuisine mexicaine, c'est par des femmes.
Est-ce une nouveauté ou une tradition?
Non, je crois que c'est une nouveauté. Moi, je pense que c'était la manière la plus facile, dans un sens, d'être femme et de travailler, de faire quelque chose. Parce que ce n'était pas toujours très facile pour une femme, surtout seule, de travailler au Mexique.
La tradition féminine, c'est aussi la cuisine, bien sûr, par essence, lorsqu'on rentre dans une grande famille mexicaine ou chez l'indigène de tout à l'heure, avec tout le bon sens du terme. On est même surpris qu'un Pedro Ortega, homme, soit cuisinier, parce qu'on penserait plutôt à sa maman ou à sa sœur. Souvent, les femmes sont sorties du giron maternel, non?
Oui, effectivement, c'est un domaine complètement féminin dans la famille. Mais le moment qu'on sorte travailler, ça change.
voir et connaître. J'aurais juste envie de pousser la porte de l'Estoril. Il y a quelque chose qui se remarque immédiatement lorsqu'on pénètre dans l'atmosphère que vous avez créée, Rosa Martin.
Les tableaux. Nous avons vraiment une collection très jolie de tableaux des grands peintres mexicains, de Tamayos.
Rufino Tamayo?
Oui, de Rufino Tamayo, de Rafael Coronel.
Vous pourriez me décrire juste un Rufino Tamayo pour nous faire envie, parce que c'est aussi de la cuisine.
C'est un peu difficile pour moi. Je ne suis pas spécialiste dans les mots pour expliquer une peinture, mais c'est les couleurs surtout. Les couleurs. Et en général, ce sont des thèmes.
Quels sont les thèmes et les couleurs?
Les couleurs sont brillantes. On peut avoir depuis en rose choquante avec un vert, en pourpre.
En disant rose et en disant vert, j'ai envie de prendre une tranche de
sandia.
Vous l'avez dit,
sandia,
vous voyez qu'elle est arrivée. Oui. C'est du tamayo, c'est-à-dire une tranche, on appelle ça pastèque chez nous.
Oui, oui.
Une tranche de pastèque avec un fond également très coloré. C'est un peintre qui a des origines de Oaxaca.
Exactement, il était aussi zapotèque, lui. Et sa femme. Il a fait des choses, par exemple, il fait beaucoup de. Une espèce de. Pas des idoles, parce que c'est pas le. On va pas dire que c'est une copie d'une idole, mais des personnages un peu comme en idole.
C'est-à-dire qu'il avait une collection extraordinaire d'objets précolombiens et qu'il s'inspirait beaucoup de l'art précolombien.
Il a même laissé. Et ça, c'était la légation qu'il a laissée à la ville de Oaxaca.
Le legat.
À la ville de Oaxaca. À sa collection, que c'est un musée, le musée Tamayo.
Le petit musée Tamayo qui se trouve à l'intérieur de cette ville coloniale qui est à 600 km au sud de Mexico, une ambiance qu'on évoquait tout à l'heure. Rosa Martin, Rufino Tamayo, j'ai cru entendre Coronel.
Coronel, Rafael Coronel, qui est lui et son frère Pedro, sont deux grands peintres mexicains. Nous avons aussi de Mérida, Carlos Mérida, que même s'il est né au Guatemala, on le considère mexicain parce qu'il avait une partie de sa famille mexicaine. Il a vécu et travaillé au Mexique toute sa vie. Et tous, ils ont la caractéristique de la couleur. C'est chaud.
Est-ce que vous avez l'art de rencontrer justement à la fois comme Chavela Varga qui est certainement assise à une des tables de votre restaurant une fois ou l'autre, est-ce que vous avez l'occasion par personne interposée de rencontrer justement des peintres, des célébrités, des hommes politiques? Quelle est l'ambiance? Parce que nous avons vu
beaucoup,
les tableaux maintenant.
Beaucoup,
comment
beaucoup,
fonctionne votre...
Beaucoup. J'ai la chance d'avoir dans le restaurant beaucoup de gens qui sont dans l'art, comme des peintres, des musiciens, des écrivains. Et j'ai eu la grande chance de devenir presque ami à eux. Avec quelques-unes très amies même.
Qui vient manger chez vous? Donnez-nous comme ça des noms.
Par exemple, Octavio Paz venait à manger, Carlos Fuentes a venu manger, pour vous dire une autre personne.
Pour ceux qui nous entendent, ce sont les deux plus grands écrivains mexicains. Un vient de mourir,
oui,
l'autre est encore en vie,
oui,
on lui souhaite pour longtemps.
Il y a Carlos Monsiváis qui est un autre grand...
J'aimerais plutôt une anecdote par rapport à quelqu'un qui s'est assis à votre table.
Une anecdote.
Quelque chose qui vous a émerveillé, la joie de partager quelqu'un.
Ah, mais par exemple, quand on m'a amené Gabriel García Márquez.
Mm-hmm. El Gabo, comme
El
ça qu'on l'appelle.
El Gabo, oui. Et c'était un groupe que j'avais tous les samedis. À midi, qui venaient déjeuner, que c'était les intellectuels, ce qu'on appelle, ils ont appelé les divinos, los divinos.
Les divins.
Les divins. Les divins. Et grâce à eux, j'ai pu connaître beaucoup de ces gens intéressants, intelligents et adorables dans le monde. Oui.
Et qu'est-ce que ça apporte à Rosa Martin lorsqu'on rencontre une célébrité qui vous touche par un petit mot, par... Est-ce que ça fonctionne comme dans les grands restaurants européens de la Belle Époque, où tout à coup, à cause d'un tableau, par un échange, par une amitié, par un petit mot écrit, par une douceur, un coup de cœur?
Oui, ça, c'est comme ça, parce que par exemple, moi je dois dire que quelques tableaux, pas tous, mais quelques tableaux de ma collection, je les fais en interchangeant la nourriture. Pour le tableau.
En échange de la nourriture.
En échange, oui.
Est-ce que
oui,
ça
oui.
continue maintenant?
Oh, c'est un peu plus difficile maintenant parce qu'il y a le fisc qui est derrière nous, mais c'est très. Mais c'est, on faisait ça surtout avec des peintres, logiquement, qu'on a une amitié. On ne peut pas le faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais avec quelqu'un qui a une amitié, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pedro Friedberg aussi, qui a fait beaucoup de peintures et des objets d'art très, très rigolants. Très rigolants.
Très drôles.
Très drôles, oui, très
qu'est-ce,
drôles.
Qu'est-ce qu'ils ont de drôle?
Oui, par exemple, il fait une chaise que c'est une main, n'est-ce pas? Des choses comme ça, et très modernes. Et c'est très... j'ai plusieurs choses à lui, parce qu'on a fait cette change de nourriture-art. Alors, parce que la nourriture, c'est aussi de l'art.
Voir et connaître. Si je vous envoyais ou je vous catapultais dans un endroit du monde ou du Mexique, où est-ce que vous aimeriez me tenir par la main pour me faire découvrir quelque chose, Rosa Martin?
Définitivement Oaxaca.
Est-ce que vous pouvez me parler de l'endroit de Oaxaca que vous préférez?
C'est magique. C'est magique. C'est Oaxaca. La ville de Oaxaca est une des plus belles villes du Mexique. Le ciel de Oaxaca, on dit même que c'est différent aux autres ciels, c'est plus bleu, je crois.
Quel serait l'endroit?
Les arbres.
L'endroit dans la ville de Oaxaca où vous voudriez vous asseoir en notre compagnie?
Le même Zócalo. Mm-hmm. Le Zócalo, par exemple. Après avoir été à Santo Domingo, que c'est une grande église très jolie.
Je vous laisse monter à Santo Domingo. Vous me permettez d'ouvrir la porte de Santo Domingo?
Oui, on rentre et on voit toute cette dorée. Toute cette église extraordinaire.
On est en plein baroque.
Mmh,
on est en plein baroque.
Oui, complètement. Et il y a le couvent qu'on vient de le arranger maintenant et on vient de le réouvrir, que j'ai malheureusement pas vu encore. Mais Oaxaca, on s'assoit dans cette Zócalo, dans une petite table. Et premièrement, les arbres de Oaxaca sont magnifiques. Et on écoute des millions de oiseaux tout
est-ce,
le temps.
Est-ce que les arbres sont pleins d'oiseaux?
Toujours, mais toujours, toujours. La nuit, le jour, ils ne dorment pas, les oiseaux. Là, je crois.
Ils ressemblent d'ailleurs à des étourneaux, les oiseaux de Oaxaca. Ils arrivent en groupe, ils oui. se déplacent en groupe, ils occupent les arbres. Oui. Le Zócalo que vous évoquez, oui. c'est la place principale de Oaxaca.
Oui.
Au milieu, il y a un petit kiosque à musique.
En général, il y a la musique.
Alors, est-ce qu'on y va le dimanche en particulier?
On y va à Oaxaca, on va tous les jours, parce que le climat aide beaucoup aussi pour être dehors.
1600 mètres d'altitude, oui. le printemps toute l'année.
Toute l'année. C'est très rare qu'il fait froid.
Si je vous faisais revivre un morceau de Oaxaca, à part le colonial, puisqu'on a vu tout à l'heure l'arbre de Jessé, cette incroyable entrée dans l'église de Santo Domingo, on a vu également le retable au fond qui brillait, vous nous avez fait dorer tout cela, et vous êtes assis sur le Zócalo, il y avait un rien de marimba, peut-être une ambiance particulière, les gens tournent sur cette place?
Les gens tournent beaucoup, surtout les jeunes. Non, pas seulement les jeunes, mais avant, c'était les jeunes. C'était la manière de pouvoir trouver un boyfriend.
C'est-à-dire les filles d'un côté, les garçons
oui,
de l'autre.
Oui, oui. Mais maintenant, on est beaucoup plus... On a évolué un petit peu et c'est pas la manière... On n'a pas besoin de faire ça pour trouver quelqu'un.
Si vous vouliez ramener un objet de Oaxaca, que prendriez-vous?
Probablement un sarape. Un sarape, c'est une couverture, on peut dire.
Comme un poncho chez nous.
Comme un poncho, oui.
En laine?
En laine. Ils font des choses vraiment merveilleuses. Ou bien la céramique noire, que vous allez rigoler, mais...
Là, je dirais toucher.
Doña Rosa, c'est le nom de la femme qui fait le...
De la poitrine.
La poterie noire. Et c'est très joli. Elle fait des choses vraiment extraordinaires.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette céramique noire? Est-ce qu'elle est...
Terre est noire. Noire.
La terre est noire et la façon de cuire est également enfumée?
Oui. C'est une façon que... Ils n'ont pas une fabrique moderne du tout. C'est fait encore tout à la main.
Avec le colombin?
Oui, tout.
Donc
tout
à la main. On prépare des jarres qui ont des formes très, je peux dire, sensuelles, voire érotiques.
Très sensuelles, mm-hmm. Oui.
En l'occurrence...
Et c'est sensuel de toucher
Vous y êtes. Vous avez envie de le toucher, c'est
oui.
vrai. Il a une brillance particulière.
Oui, c'est pas mat. Il y a comme de reflets, plus que brillante, c'est des reflets.
Lustré.
Patiné.
Patiné, on pourrait dire, oui. On pourrait dire
c'est fait avec un brunissoir juste avant la cuisson, où tout à coup l'argile se transforme en poudre et pénètre à l'intérieur, et ça vous donne ce glacis particulier.
Probablement, c'est ça. Mmh. Oui, oui.
Rosa Martin, nous avons dit toucher. Si je vous demandais de goûter, là, je vous laisse toute la planète pour choisir un plat.
Le plat que je choisirais, que c'est un peu difficile.
Rien n'est difficile, plat, vous pouvez tout faire aujourd'hui.
Un de plats que je goûterais ou que j'aimerais, ce que j'aime beaucoup, c'est le mollet negro, comme je vous avais dit déjà. Mais par exemple, le ceviche, qui est complètement différent, qui a rien, c'est deux cuisines différentes.
Ceviche. Décrivez le ceviche.
Le ceviche, c'est du poisson. C'est du poisson coupé en petits dés, mariné dans le citron vert, cru, mariné. Et on met du tomate, du coriandre, pas du persil, du coriandre, un peu de chili verde, le petit chili que je vous ai dit que c'est
le piment, là.
Très fort, le piment. Et on met des oignons. Mais c'est très très bon.
Donc
et
l'idée
c'est
de base.
Frais. C'est frais. Il n'y a rien à voir avec quelque chose qu'on cuit pendant des heures dans la cuisine.
Donc c'est simplement du poisson cru mariné dans du citron vert.
Exactement.
Le citron vert a de l'importance au Mexique.
Ah oui, le citron vert. Moi, je dis que les Mexicains, on ne peut pas vivre sans citron. On met du citron partout, dans tous les soupes, dans tous les poissons, même à la viande grillée, on met du citron.
À la pointe d'une Corona.
Oh, si.
Sur les bières. Et sur les fruits. Sur les fruits, on met du
aussi,
piment.
Aussi, la papaye, par exemple, on met du citron avec du sel. Et le citron vert, surtout on met à Mexico, parce qu'ici, on trouve du citron vert. Mais ce n'est pas le même goût.
Le goût du citron vert. Eh bien, je crois qu'on va le goûter tout en... Il y a des ambiances comme ça. Il faut à la fois de la musique. Je mets mon petit truc de citron au sommet de ma bière. Je vous invite à vous avoir... Enfin, à mes côtés, à une table sur cette terrasse de Oaxaca. Regardez le kiosque commence à tourner. On est vraiment au centre du monde.
Si fuera pintor con mi pincel de amores pintaría tu hermosura en las fibras de mi corazón. Si fuera pintor el paisaje de tus labios con mis besos doloridos brillarían con más esplendor. Mil colores sería tu amor con el arte de mi inspiración. Las campanas de tu corazón vibrarían en esta canción. Acordes de tu alma, mi vida, quisiera pintar. Si fuera pintor con mi pincel de amores de mi corazón. Si fuera pintor el paisaje de tus labios con mis besos doloridos brillarían con más esplendor. Mil colores sería tu amor con el arte de mi inspiración. Las campanas de tu corazón vibrarían en esta canción. En los acordes de tu alma, mi vida, quisiera pintar. Si fuera pintor, yo te haría un regalito para tu corazón. Si fuera pintor, pintaría tu hermosura. Qué dichoso estaría en mi alma te pondría. Si fuera pintor.
Rosa Martin, est-ce que vous auriez pu, comme le dit Julio Jaramillo, ser pintor o pintora, être peintre? Est-ce que la cuisine, c'est de la peinture d'abord?
Définitivement, parce qu'on doit... si on ne fait pas une peinture d'une plaque, on donne, les gens n'aimeraient pas. Et la nourriture rentre par les yeux et les odeurs.
Vous croyez que ça ne se voit pas chez vous, Rosa Martin? Je veux dire, quand vous exprimez quelque chose, vous le faites passer par les yeux, vous le faites passer par vos mains qui systématiquement s'annoncent sur une table. Comme ça, on a toujours l'impression que vous êtes en train d'offrir quelque chose.
J'aime ça.
Le don.
Oui, j'aime ça.
Partager,
et surtout, c'est pour ça que je suis tellement contente que je suis ici à Genève, parce que j'aime partager avec les Suisses notre cuisine, qui est tellement riche et tellement bon, mais que malheureusement, les gens ne connaissent pas.
C'est devenu une tradition au cours de ces dernières années. Vous vous êtes présenté toujours à la même adresse, mais à des adresses différentes, en Suisse romande et particulièrement ici à Genève, pour jouer la quinzaine, au sens, je donne un peu de mon temps, je viens avec mon cuisinier vient avec moi, et je partage la passion de mon pays,
oui,
de ma cuisine.
Effectivement, surtout que j'aimerais que les gens comprennent très bien qu'il y a une grande différence entre notre cuisine et la cuisine de Tex-Mex.
On dit que la cuisine mexicaine est une des trois ou quatre grandes cuisines du monde, mais la Tex-Mex n'a rien à voir avec la cuisine.
Non, n'a rien à voir. La cuisine Tex-Mex est définitivement américaine, avec une base, si vous voulez, de cuisine...
De cuisine de chicano, Mexique, enfin des gens
chicano.
Qui...
Mais c'est pas la cuisine. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit au restaurant, « Ah, mais vous n'avez pas de tacos tout le temps, ou de nachos, ou de choses comme ça. » Et ça, c'est pas typique de... Parce que nous, le chile con carne, on peut pas le manger en Mexique.
Chile con carne, c'est texan.
Et c'est texan, par exemple. Mm.
Vous êtes en quelque sorte une ambassadrice de la gastronomie mexicaine. Est-ce que vous avez l'impression, Rosa, que ça prend du temps, peu à peu, pour que les gens, tout d'un coup, se mettent à découvrir quelque chose qui est autre chose que ce qu'ils connaissent communément, comme le Tex-Mex?
Oui, ça prend du temps et j'adore de penser que je pourrais être une ambassadrice parce que c'est ça que j'aimerais. Mais c'est difficile parce que comme tout le monde a la cuisine Tex-Mex dans la tête, de le prouver qu'il y a une autre cuisine, que c'est pas forcément trop pimenté, avec des arômes et des goûts de produits mélangés, de cuisine mélangée, c'est difficile.
Mais vous ne croyez pas qu'il suffit d'une fois? Il suffit d'une fois de goûter quelques plats très particuliers, comme peut-être par exemple les nopales, les nopalitos, qui sont ces fameux cactus, le cactus emblématique mexicain.
Là, vous parlez du figuier de Barbarie, cette espèce de raquette comme ça que l'on découpe.
Voilà. Alors, imaginez qu'au Mexique, on mange ça très souvent. C'est un plat. Par exemple, vous leur offrez ça. Vous leur offrez des champignons du maïs, les cuitlacoche, un nom très compliqué.
C'est des champignons bleus, marines. La couleur fait peur au départ, non?
La couleur, c'est un peu noire. Et moi, je dirais que je peux comparer le cuitlacoche avec le caviar du Mexique.
En fait, c'est une excroissance du maïs ou une sorte de moisissure, quelque chose qui pousse. C'est un petit bubon en forme de champignon qui pousse sur l'épi de maïs.
Et nous, on le mange et c'est délicieux. Il y a un goût spécial. Il y a le goût qu'effectivement, son est spécial, c'est différent. Et des fois, on ne peut pas, à la première fois, des fois, on ne les aime pas parce que c'est différent. Et en général, les gens...
Il y a des gens qui n'aiment pas le caviar non plus.
Oui, exactement. Nous avons peur de changer, n'est-ce pas?
Vous avez l'impression de surprendre les gens?
Oui, de surprendre un peu. Mais c'est ce que je crois que c'est important, que même si les gens, pas tout le monde a connu la cuisine mexicaine pendant que je suis ici, que les personnes qui ont connu la cuisine, ils reviennent quand ils savent qu'on revient.
En l'occurrence, pour ceux qui ne sont pas encore allés, qui ne connaissent pas votre cuisine, je crois qu'on pourrait les laisser nous appeler ou simplement pour vous taquiner et vous voir en chair et en os. Et est-ce qu'un cuisinier comme Pedro Ortega sort volontiers? Est-ce qu'il est timide d'abord? Est-ce quand on est si grand cuisinier, on n'est pas justement timide parce qu'on a un cœur, qu'on a une façon de travailler? 27 ans cachés comme ça derrière des fourneaux à faire quelque chose qui a ses origines à travers son côté zapotèque et indien.
Il est formidable parce qu'il il sort. Et par exemple, maintenant, cette fois-ci, c'est le troisième ambassadeur mexicain à Berne qu'il connaît. Alors ça lui fait, ils se sont vraiment ravis, ils se sont très complimentés, très contents qu'on vienne lui dire bonjour. Et au Mexique, je dois dire qu'il a... Il a dit bonjour à des présidentes, à des gens très importants, à beaucoup de ces grands artistes qu'on avait parlé il y a un moment, des peintres, des écrivains, etc., des gens de la très bonne société, des banquiers, des gens très intéressants.
S'il était assis ici, qu'aurait-il envie de visiter? Parce que là, on vient de parler du Mexique, mais vous êtes suffisamment, entre guillemets, occidental par vos origines suisses, par le fait d'avoir voyagé, d'être né à Chicago, comme je le disais, une trajectoire suffisamment internationale. Quelle est la chose qui titillerait ou quelle est l'anecdote qui ferait plaisir à un Pedro Ortega lorsqu'il vient en Suisse ou avant de rentrer au Mexique?
Lui, surtout, il est très impressionné d'être ici parce que de la civilisation, de la manière que tout le monde est très civilisé. Par exemple, une des choses qu'il a vraiment impressionné, c'était que les gens, à midi, ils arrivent, ils commandent immédiatement et ils mangent. Chez nous, à midi, ils arrivent, ils prennent 3-4 apéritifs, ils commandent. Après, il reste après le déjeuner, et ça peut durer un déjeuner facilement, ça peut durer entre 5 et 6 heures. Alors ici, pour lui, que les gens sont tellement responsables d'aller travailler, et ça le fait un grand plaisir.
Il est tout étonné.
Il est tout étonné.
Quelle est sa ville préférée en Europe, ou quel est son rêve s'il devait visiter quelque chose?
Il connaît seulement Genève et Paris. Et les deux villes, je ne crois pas qu'il a... Il pourrait dire tout le ville d'Europe, ça le ferait plaisir de connaître, mais il connaît pas beaucoup.
Et vous, votre coup de cœur en Europe?
En Genève, parce que j'ai ma famille, mes racines, mais Paris. Paris, c'est ma ville préférée, définitivement, oui.
Et au Mexique, Rosa, où est-ce que vous nous emmenez d'autres? Un petit paradis
Mexique,
à vous?
Un petit paradis très très particulier, c'est un endroit très joli qui s'appelle San Blas, qui est sur la côte du Pacifique, presque en face de la Basse-Californie.
Dans l'état du Nayarit.
L'état de Nayarit, que c'est très joli, avec des plages, et que c'est encore très vierge, parce qu'il n'y a pas de touristes.
Rosa Martin, faites attention. Vous allez parler de quelque chose de vierge. Est-ce que vous voulez le cacher ou vous voulez le donner?
Non, quand je dis vierge, parce qu'il n'y a pas ces horribles hôtels.
Oui, mais si nous allons tous là-bas.
Non. Alors on va pas parler de
on
ça.
On va pas dire où.
Non.
Si on va parler.
Oui.
On va donnez-moi
parler
la plage.
Parce que je suis pas égoïste. Je suis pas égoïste. Mais la plage San Blas, cette petite port qui était un port très intéressante et très importante quand il y avait les Espagnols.
À l'époque où on en allait encore aux Philippines.
Oui, parce que c'était là que tous les bateaux de Philippines, de Manille.
Accostaient. C'est votre petit jardin secret.
Ah oui, c'est sensationnel. Les plages sont très 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 jolies, très jolies. L'eau est claire et on a des plages avec des vagues très très fortes, mais aussi avec très placides. Alors on n'a pas besoin toujours d'être en de plage qu'on est en train de se battre avec la mer, n'est-ce pas? On peut vraiment la sentir.
Je vous laisse en douceur. Vous aimez les hamacs, Rosa Martin?
Oh, je les adore.
Est-ce que vous êtes active?
Oui, trop? Définitivement. Oh, je ne crois pas que trop. Oh.
Vous savez prendre le temps du hamac?
Oui, parce que moi, j'adore me mettre dans une hamac, surtout après le déjeuner, qu'on mange, par exemple, en ceviche, comme on parlait en ceviche, on prend un poisson grillé, fait à la façon de ce genre-là, que c'est toujours comme une grille, mais une grille très, très primitif.
Bon appétit.